sur ce territoire, sur cette géographie physique dont je vous parlais. Merci. La Chine a toujours été un grand pays agricole, grand pays rural donc. La carpe distribue dans l'espace les zones d'élevage, les zones du blé, les zones du riz. La diapo d'après. Cette carte nous montre la densité d'occupation du sol. Les points représentent les grandes villes, le développement des grandes villes et le développement des villes moyennes, hein, avec une grande rapidité depuis une vingtaine d'années. Et en termes de densité, plus c'est sombre, plus c'est dense, plus c'est clair, plus c'est clairsemé. Et la transition est facile à faire. C'est-à-dire que la carte de la Chine qu'on peut voir aujourd'hui, la répartition des populations, n'est plus liée au grand bassin orographique que je vous montrais il y a 10 minutes. C'est-à-dire que aucun pays ne s'est autant transformé aussi vite. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Avec le succès économique que l'on connaît, il a à la fois plusieurs causes et plusieurs conséquences. Depuis 20 ans, les Chinois bougent, ce qui n'était pas le cas avant. Le pays passe très rapidement d'une population rurale à une population urbaine. Deuxièmement, les Chinois quittent l'intérieur du pays et vont vers les côtes. Ils quittent la terre pour aller vers le secteur tertiaire. Et ceci dans des proportions extrêmement importantes. Simplement, comme la population chinoise est très importante, il y a encore, si je puis dire, un bassin de réserve de population rurale extrêmement importante. Ce serait très intéressant de faire une analyse qui doit exister, je ne l'ai pas ici, de faire le recoupement entre population rurale, classe moyenne, classe riche et localisation, positionnement dans l'espace chinois tel qu'il se redéfinit depuis une vingtaine d'années. Ceux qui restent dans les campagnes sont bien entendu les plus nombreux. Ils sont moins agriculteurs qu'auparavant. Ils sont plus liés donc au tertiaire, comme je vous le disais. Plus de la moitié de la valeur produite dans les campagnes chinoises ne vient plus de l'agriculture, mais du commerce et de la transformation des produits manufacturés. Donc c'est un changement de la géographie économique du pays qui est majeur, qui n'est pas sans poser de très gros problèmes que j'évoquerai à la fin de cet exercice, puisque je pense qu'il va me rester 15 minutes. Finalement, la Chine voulait devenir un pays moderne. C'est à peu près réussi pour la zone côtière. Ça n'est pas le cas à l'intérieur. Et pour ça, elle a pris, pour se moderniser, des instruments, des approches, des outils extrêmement classiques. Appel aux capitaux extérieurs. On va sur les marchés des capitaux. Urbanisation du territoire, consommation, avec succès, mais le schéma de développement sur 30 ans est d'un grand classicisme. Appel à une fiscalité basse pour les capitaux étrangers. Et je serais très intéressé de creuser un dossier, ce que je ferai bientôt, sur les villes HQE, les villes chinoises HQE, qui sont en train de se développer. HQE, c'est haute qualité environnementale. Je sais que la Chine a des urbanistes et des architectes qui travaillent sur le concept de villes faibles consommatrices d'énergie, à faible empreinte écologique. C'est un dossier extrêmement intéressant et d'après ce que j'ai cru comprendre, mais je vous dis, il faudrait que j'approfondisse, la Chine pourrait être en avance là-dessus et À cet égard, les liens entre la Chine et des Chinois urbanistes et architectes et des Californiens s'est considérablement accru depuis une dizaine d'années avec des échanges de savoir-faire, mais dans les deux sens. Diapo d'après, voilà. La Chine est donc le premier destinataire des investissements directs étrangers à l'échelle mondiale. En 2006-2007, elle capitalisait 22 à 23% de la totalité des IDE. Ce qui est important, très important. Le continent africain, 4,2%. La Chine, 22 à 23%. Les investissements sont essentiellement côtiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La carte montre bien d'ailleurs la proportion. Hein. Plus c'est rouge, plus la proportion des IDE est importante. Plus c'est clair, moins c'est important. Et là, on retrouve vers l'ouest du pays cette notion de confins, hein, où c'est plus loin, on connaît moins les populations, on est moins sûr de la sécurité dans tous les sens du terme. On n'est plus avec les Han, hein, mais avec des Ouïghours, avec des Kazakhs, avec des Tibétains. Donc c'est une géographie politique et une géographie économique assez différente de la géographie côtière. Pour un tel développement, ce sera mon avant-dernier paragraphe, évidemment, la Chine est dévoreuse d'énergie. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Les besoins chinois en énergie représentaient 10% de la demande mondiale en 2000. On sera à 20% dans deux ans, en 2010. Donc on a augmenté de 10% en 10 ans. Évidemment parce que la Chine construit énormément d'usines, puisqu'elle est elle-même l'usine du monde, donc elle construit des usines. Des routes en 5 ans, hein, 2000-2005, 200 000 km de routes, 20 000 km d'autoroutes, 10 aéroports internationaux, 92 aéroports nationaux, forte demande d'équipement des ménages, hein, avec l'augmentation de la classe moyenne chinoise. Donc une économie qui est très tirée par la consommation intérieure. Je vous l'ai dit, mais je le répète, une urbanisation galopante. Entre 1988 et 2008, 150 villes de plus d'un million d'habitants. En 1978, 18% des Chinois vivaient en ville. En 2008, 42% vivent en ville. Donc vous imaginez les conséquences, hein, de changements sociaux, socio-économiques, ruraux, urbains, production de déchets, production de pollution, transport, infrastructure. C'est une autre révolution chinoise, hein. Et plus les Chinois sont urbains, plus ils consomment de l'énergie, hein. Vous savez bien qu'à la campagne, on en consomme moins. En ville, on en consomme plus. Au point qu'il y avait des directives des partis communistes locaux qui demandaient aux gens qui travaillaient dans les bureaux de tomber la veste quand il fait chaud en été plutôt que d'utiliser la climatisation. C'est une directive qui a été donnée parce que l'idée était d'éviter les coupures d'électricité, tout simplement parce que la demande est plus forte que l'offre, hein. Non, la diapo d'avant. La Chine produit donc 34% de la production mondiale de charbon, qui représente 64% de sa demande énergétique interne. Le pétrole, 27%, l'hydroélectricité, 6%, le gaz naturel, 3%, et le nucléaire, 0,6% des besoins énergétiques. On a donc 94% des ressources énergétiques chinoises qui viennent des énergies fossiles. schéma classique, là encore. Je vous laisse à penser ce que ça implique en termes de pollution, hein, d'émissions de CO2, d'où l'extrême nécessité de passer des accords internationaux à la conférence de Copenhague en 2009, hein, avec un traitement, j'allais dire, égalitaire entre puissances développées comme Union européenne, États-Unis, Australie, et puissances émergentes comme l'Inde et comme la Chine, qui n'avaient pas les mêmes contraintes au moment du protocole de Kyoto. Le pétrole couvre 30% des besoins énergétiques chinois, diapo d'après. La Chine s'est lancée dans l'exploitation de nouveaux champs de pétrole et de gaz dans l'ouest du pays, dans la province du Xinjiang, autour du désert du Taklamakan, avec, et ça c'est identique pour le charbon, un problème de renchérissement des coûts, tout simplement parce que l'exploitation des mines est à 2600 km des consommations. Hein, ce qui fait qu'on a un renchérissement des coûts, premièrement, et deuxièmement, un engorgement du réseau ferré. Hein. Par exemple, en 2005, les trains ne pouvaient répondre que, j'avais noté le chiffre, à 34% des besoins des producteurs de charbon et des conteneurs pétrole. Ce qui fait que les infrastructures ferroviaires chinoises ne peuvent pas répondre d'un côté à un bout de la chaîne à la production et de l'autre à la consommation, à la demande de consommation sur les côtes. Il y a donc une tension très forte sur les prix, d'une part, et d'autre part sur le transport. Deuxièmement, la Chine est évidemment très intéressée par les gisements au sud, qui présenterait l'avantage d'être beaucoup plus proche des grandes zones de consommation, hein, des grandes villes comme Shanghai, Nankin. Simplement, on a là des problèmes politiques et même géopolitiques, puisque la zone des Spratleys, que vous voyez bien sur la carte, présente l'avantage d'être riche en hydrocarbures, hein, mais un double inconvénient. Un, elle est revendiquée en termes de droit maritime international, par les Philippines, par le Vietnam, par Brunei par l'Indonésie. Deuxième inconvénient majeur, vous voyez la ligne de communication qui est ce petit fil bleu qu'on a tracé. La Chine, tout comme le Japon d'ailleurs, importe l'essentiel de son pétrole du Moyen-Orient, ce qui est normal, si je puis dire, puisque le Moyen-Orient dispose à lui seul, aujourd'hui on est encore à 64% des réserves mondiales de pétrole. Donc l'essentiel de la production mondiale de pétrole vient toujours du Moyen-Orient, même s'il y a d'autres chantiers ouverts et d'autres grands producteurs. Donc le deuxième inconvénient des Spratleys, c'est que l'essentiel du pétrole passe par le détroit de Malacca, puis par les îles Spratley, et ensuite arrive à Shanghai ou en Corée du Sud ou au Japon. Mais pour le cas de la Chine, ça pose un problème tout à fait particulier en cas de tension majeure avec les États-Unis. Pourquoi ? Parce que ces lignes de communication maritime sont protégées par la marine américaine et la marine française d'ailleurs, hein, qui a toujours une base à Djibouti, elle en aura une autre bientôt au Qatar. Ce qui fait qu'en cas de crise majeure, on peut fermer ou gêner le robinet. Cette ligne vitale qui permet à la Chine d'importer du pétrole peut très bien être... En tout cas, une pression peut être exercée. Et j'ai en tête, bien entendu, en cas de crise très sérieuse avec Taïwan, ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mais si on fait un peu de stratégie et de constat géopolitique, la Chine n'a qu'une idée en tête, c'est de se dégager de cette ligne de vie qui est soumise à la marine américaine. Et c'est pour ça qu'elle est en train de passer des accords oléoducs terrestres, d'une part au Pakistan, par le port de Gwadar, et d'autre part par la Birmanie et la Thaïlande. Ce qui évite à ce moment-là le passage par le détroit de Malacca, hein, et le passage par la mer de Chine méridionale. Comment améliorer l'efficacité énergétique ? Il y a des chiffres intéressants. Pour une unité de PIB produite, On a calculé que l'Europe consommait 13 tonnes équivalent pétrole, les États-Unis 20 tonnes équivalent pétrole et la Chine 69 tonnes équivalent pétrole. Donc il y a des gains énergétiques par des gains en efficacité absolument considérables à faire. Hein, 13 tonnes équivalent pétrole pour l'Europe, 20 pour les États-Unis, 69 tonnes. Mes chiffres viennent de l'Agence internationale de l'énergie et ils datent de 2006. Par exemple, la Chine n'a quasiment pas de réserve, ce qu'on appelle de réserve stratégique. Elle est à 8 jours. Elle est à 8 jours de réserve stratégique en termes d'énergie, ce qui est extrêmement peu, extrêmement peu. Les États-Unis étaient à 3 mois, ils sont passés à 2 mois. Et la Chine est à une semaine. Donc, avant de passer au tout dernier chapitre et à ma conclusion, face à cette configuration de demande énergétique chinoise qui est tout à fait dévorante, on peut repérer trois réponses, hein, trois stratégies chinoises. Privilégier les oléoducs sur les tankers, je viens de vous le dire, hein, par la Thaïlande, par le Pakistan, mais aussi par l'intérieur. Hein, je pense à l'investissement Kazakhstan-Chine. En espérant que les réserves internes au Kazakhstan, ben voilà, il est schématisé ici, pourraient ensuite être exportées vers la Corée du Sud et le Japon. Acquérir des nappes hors de Chine, hein, les compagnies chinoises ont des politiques de rachat de compagnies étrangères qui est tout à fait marquée, et diversifier les fournisseurs. Alors, quels fournisseurs ? Kazakhstan, Russie, Venezuela, la diplomatie chinoise au plus haut niveau a, le terme n'est pas péjoratif, balayé 26 à 27 États africains en 2 ans, hein, sur 54. Hein, Hu Jintao, le ministre des Affaires étrangères, ont été dans la moitié des États africains en 2006-2007. Hein, c'est on a une espèce de géographie des voyages qui est une géographie économique de la Chine, une stratégie vis-à-vis du continent africain. Qui est connu maintenant, mais qui est tout à fait pensé, bien pensé, je ne sais pas, mais en tout cas qui est tout à fait pensé. Donc diversification des fournisseurs, je pensais naturellement à l'Angola, et puis maintenir des relations avec des pays qui ont moins de relations avec les diplomaties occidentales, comme l'Iran, la Libye, le Soudan. C'est-à-dire que la Chine profite de l'isolement imposé à ces pays pour proposer un troc, hein, importation de pétrole contre fourniture d'armement conventionnel. Contrairement à ce que... Enfin, j'en parlais avec Eric Van Waal qui disait qu'il était lassé de cette attitude morale qui consistait... C'est parfait. Qui consistait à critiquer... le fait que la Chine avait des relations économiques avec le Soudan, qu'elle bloquait le dossier du Darfour, qu'elle fournissait des armes au Zimbabwe. Moi, je pense le contraire de vous. Je pense que cette pression est nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas d'un côté faire des efforts pour améliorer la gouvernance et de l'autre, constamment, ne rien dire à Pékin parce que c'est un marché... attractif. Donc je pense tout à fait le contraire. En plus, je ne suis pas convaincu que la Chine, justement aujourd'hui étant une moyenne grande puissance d'une part, ayant eu une attitude particulièrement mature au moment des tensions financières en Asie en 98-99 sur le yuan, je ne suis pas convaincu que la Chine continue à avoir besoin à fournir des armes au Zimbabwe au moment où le régime de Mugabe est une situation tout à fait préoccupante pour les Zimbabwéens eux-mêmes. Donc je suis pas très convaincu. Je pense que les pressions sont opportunes, au contraire, et je pense que la Chine ne s'abaisserait pas à progressivement réfléchir aussi à la gouvernance internationale, comme on peut tenter de le faire. Je voudrais terminer par 2 points, puisqu'il me reste 5 minutes, c'est parfait. Donc la Chine s'enrichit, succès tout à fait extraordinaire, Mais l'analyse de la situation pour les Chinois n'est pas tout à fait la même, parce qu'on a constaté qu'en 25 ans, l'espérance de vie n'a progressé que de 3 ans, ce qui est très peu. Hein. Quand vous voyez la rapidité de l'augmentation de l'espérance de vie pour les Européens, plus encore que pour les Américains, vu le niveau d'enrichissement, d'investissement de la Chine, 3 ans d'augmentation d'espérance de vie, c'est très peu. Et il semble que ce soit lié à un phénomène très simple qui est tout simplement la privatisation des structures de santé. Ce qui fait qu'on a beaucoup de familles qui ne sont pas encore tout à fait dans la classe moyenne, qui sont ces ruraux que j'évoquais tout à l'heure, qui sont laissés sur le bas du chemin parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens de s'assurer financièrement d'une opération de gravité moyenne ou de gravité importante. Dans les régions les plus pauvres, hein, et qui sont donc plutôt au centre et à l'ouest, on notait qu'on avait 2 malades et demi sur 4 qui ne pouvaient pas avoir accès au système de soins, ou bien qui les commençaient et qui devaient les interrompre faute de pouvoir les payer. Les assurances maladie étant désormais privées, 10% seulement sont couverts en zone rurale, contre 60% sont couverts par les assurances maladie en ville, ce qui indique bien d'ailleurs les différences de niveau de vie. En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Voilà, j'ai essayé de vous présenter, donc dans le temps qui m'a été donné, quelques éléments historiques, mais c'est juste pour souligner l'extraordinaire civilisation chinoise, une espèce de très grande continuité. Il n'y a pas tellement de pays qui ont cette continuité. L'Inde, là, les Perses l'ont. L'Égypte est restée à peu près dans sa même enveloppe territoriale, mais il y a eu la coupure. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité entre la culture pharaonique et les Arabes égyptiens d'aujourd'hui. Hein. C'est finalement au XVIIIe, XIXe siècle que les Anglais, et je pense à Carter en particulier, ont redécouvert cette civilisation extraordinaire. Alors que la Chine et l'Inde, il y a des continuités tout à fait impressionnantes. J'avais même le terme intimidante. Je trouve que cette civilisation est passionnante, elle est intimidante, et en même temps, c'est peut-être pas nécessaire de l'opposer, enfin, de chercher des mécanismes d'opposition, comme le disait superbement François Julien tout à l'heure. Donc on a parlé de géographie, on a parlé un tout petit peu d'économie, mais je sais que vous allez en parler beaucoup. L'énergie. Je voulais vous dire que la Chine a une vision, et les Chinois ont une vision de la géopolitique de leur territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une très grande constance dans les frontières chinoises, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et donc je crois que ça aussi c'est dans la mémoire collective. Deuxièmement, c'est une question que je pose. En quoi est-ce que la culture tibétaine et l'enseignement à l'école menacent la Chine ? Donc, je ne pose pas la question « faut-il critiquer, pas critiquer, etc. » La question que je me pose, c'est que je ne vois pas très bien en quoi un si grand pays comme la Chine peut se trouver en quoi que ce soit menacé pour aller vite par le Dalai Lama. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça s'appelle réflexe national, éventuellement réflexe nationaliste. Mais je ne vois pas où est la menace. Surtout qu'en plus, comme tout le monde l'a compris, il ne s'agit pas d'indépendance, mais d'autonomie, bien entendu. Donc, je voulais attirer l'attention là-dessus. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il est nécessaire, pardonnez ma franchise, mais je n'appartiens à aucun parti. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller payer tribut à l'empereur de Chine, comme tous les gouvernements français le font régulièrement. Ce n'est pas propre à Jean-Pierre Raffarin. Tous les gouvernements sous Pompidou, les uns et les autres, vont payer tribut à l'empereur de Chine. Je ne suis pas convaincu qu'on soit plus respecté pour cela. Mais ça pose la question, hein, ça fait 30 ans que je suis ces questions-là, d'universalité ou de spécificité. Est-ce qu'il y a une universalité des droits de l'individu ? Moi, je pense que les droits de l'individu en Chine sont insuffisamment respectés. Ou est-ce qu'il y a une spécificité de chaque... Le débat n'est jamais terminé. On ne va pas le trancher là-dessus. Voilà, j'ai profité de cette demi-heure pour vous dire, je pense qu'on peut critiquer un gouvernement et admirer profondément une civilisation, et c'est une civilisation qui le porte, Il y a une très grande unité de la Chine, hein, et cette unité, elle est due, je vous l'ai dit, au territoire, elle est due au caractère chinois, Hanzi. Ils sont précieux, les caractères chinois, parce que parfois, entre les dialectes, ils ne se comprennent pas. Mais avec les caractères, ça permet toujours d'avoir un élément d'échange. La philosophie est importante. Le confucianisme, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, est un facteur d'unité. Et puis, dernier élément, je vous conseille vivement de lire l'histoire des aventures de Zhang He. Zhang He était un amiral chinois, eunuque, du XVe siècle, et qui a conduit des expéditions maritimes très loin des côtes chinoises, donc bien avant Colomb, hein, 10, 20, 30 ans avant Colomb. Et à chaque fois, c'était pour faire de la diplomatie. Et la diplomatie, ça consistait à offrir des cadeaux de la part de l'empereur de Chine en échange de commerce, bien entendu, mais aussi d'allégeance. C'était une diplomatie qui était intellectuelle, qui était artistique. Elle n'était pas belliqueuse. Elle n'était pas belliqueuse, contrairement à ce que les Portugais et les Espagnols, quelques dizaines d'années après, vont faire en Amérique latine. Et donc, je voudrais juste terminer en disant que la Chine ne va jamais en guerre. On peut, vous voyez, critiquer un gouvernement et se souvenir que l'esprit belliciste n'est pas chinois. C'est le Japon qui a attaqué la Chine. Ce sont les Européens, dont nous, qui avons attaqué la Chine à partir de 1842. La Chine reste dans son territoire et c'était pour ça qu'il était important de commencer par la notion de centre, hein, Zhongguo, et c'est ce que les petits schémas permettent de comprendre. Je vous remercie.